Donc on va continuer. Bah merci Gildas. On va continuer donc puisqu'on avait interverti avec Philippe Roizès qui est documentariste et réalisateur. On t'écoute.
Merci. Donc j'ai choisi de parler de deux mouvances minoritaires, l'AOI et le hardcore, et j'ai intitulé ça rugosité musicale éthique et non ethnique, oui. Comme il y a une faute sur le programme.
Je suis désolée, c'est
et classe sociale. Et donc ce qui m'intéresse, c'est les codifications et les éthiques à deux mouvements minoritaires. En quoi les classes sociales auxquelles les gens qui ont été les protagonistes principaux, ça les a influencés à définir ces codes et ces éthiques. Évidemment, c'est un peu généralisé. Il y a forcément des contre-exemples, mais je vais aller, vu le temps imparti, aux choses les plus essentielles. Donc, mon introduction, l'apparition de deux sous-genres radicalisés du punk, respectivement, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc, dans un contexte où, à partir de 1979, il y a quand même plein de gens qui ont été dans les premiers groupes punk rock. Qui vont commencer à faire des musiques plus élaborées, parfois plus polies ou plus expérimentales. Il y a une nouvelle génération plus jeune qui va plutôt justement faire de la musique régressive et des genres musicaux plus simplistes ou radicalisés. Alors il y a la OI pour la Grande-Bretagne et le hardcore pour les États-Unis, on peut dire à peu près à partir de 1980. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les deux cas, les noms des deux mouvements ont souvent été attribués a posteriori, c'est-à-dire que, par exemple, en Angleterre, Cockney Rejects existait avant qu'on appelle ça de la OI, et comme on l'a dit précédemment, c'est le journaliste Gary Bushell qui a... En fait, il y avait une scène émergente, mais il a défini avec ce nom comment on pouvait regrouper tous ces groupes de seconde vague. Et pour les États-Unis, c'est moins clair. Je pense que le terme hardcore vient d'un fanzine, mais en tout cas, c'est certainement pas le premier groupe de hardcore américain qu'on peut considérer étant les Bad Brains. C'est pas eux qui se sont définis comme hardcore. Alors, je vais commencer donc par la OI, qui sera une partie un peu plus longue que la partie consacrée au hardcore. J'ai appelé ça la revanche des affreux, sales et méchants. Et j'ai directement un grand A, bas de l'échelle sociale et mode de vie de rue. Alors, en Grande-Bretagne, contrairement au punk où il y avait quand même un brassage des classes sociales, là on va avoir avec la OI essentiellement des classes sociales populaires. Et au départ, c'est défini comme étant la musique des punks nouvelle génération, on dira punk de rue ou punk des quartiers populaires, des skinheads et de ce qu'on appelait en Angleterre les Herberts, qui n'avaient aucun look particulier. En France, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, tout va se répéter de manière accélérée, avec souvent 50% de mimétisme par rapport à l'Angleterre et 50% de choses réelles qui ont des fondements. Assez rapidement, la OI, du fait surtout de la grande presse, va être définie comme la musique des seuls skinheads, et en France, assez rapidement, ça va être pris comme tel. Alors, les fondamentaux culturels de la OI, la musique, je dirais que c'est des structures de plus primaires, des voix en général plus rugueuses, plus mâles, et souvent une constante qui revient, c'est les chœurs, les énormes chœurs inspirés directement de l'ambiance des supporters des stades de football. Il y a la centralité de la rue, c'est-à-dire que là, par rapport à, je sais pas, des ouvriers qui se réuniraient au café. Là, on a des bandes de skins qui vont se réunir surtout dans la rue et y traîner avec toutes les dérives que ça peut apporter, surconsommation d'alcool, baston. C'est pas une obligation, mais en tout cas, ça a largement existé. La notion de territoire, la différence entre la Grande-Bretagne et la France, c'est que, en Grande-Bretagne, on traîne dans le quartier où on habite la plupart du temps. Alors qu'en France, on va élire comme domicile un quartier où on a traîné une fois et puis finalement on y revient. C'est pas forcément le quartier où on habite. Je pense aux bandes des Halles de Luxembourg, il y en a eu plein d'autres. Ensuite, il y a le football, sport populaire et quasi religion populaire en Grande-Bretagne, qui a été central pour la OI. Là encore, 50% de mimétisme et 50% de réel fondement. Il y avait ce qu'on appelait le Cop de Boulogne qui préexistait hein, depuis... je crois 79 ou quelque chose comme ça, les supporters les plus jeunes et les plus ardents. Et à partir de 1982, il va y avoir une mainmise un peu des skinheads sur ce Cop de Boulogne, qui va pas durer éternellement, mais qui va durer un certain temps. Il y a des codes vestimentaires. Alors en France, il n'y a pas toute la palette large des vêtements codifiés du skinhead qu'on trouvera en Grande-Bretagne, pas au début en tout cas. Mais ce qu'on va trouver en tout cas assez rapidement, c'est le bomber, donc le blouson de l'armée américaine, souvent kaki, vert. Le Harrington, la veste avec le petit intérieur écossais. Et évidemment, les Doc Martens hautes ou basses. Mais enfin, au tout début des années 80, il y a quand même très peu de gens qui portent des Doc Martens. Il y avait souvent plutôt les Rangers. Ensuite, j'ai mis deux pochettes de disques parmi les deux premiers groupes du genre. Tolbiac Toads et RAS. RAS qui a toujours refusé l'appellation Oi, mais bon, l'histoire l'aura retenu comme étant un groupe du genre. Il y a le mur de briques, qui sera quasiment une constante dans les pochettes et dans l'imagerie Oi et Skinhead. Et quelque chose, effectivement, d'assez brut, primaire, sans réel concept. Le tatouage, il est apparu tout de suite en France, mais tous les skins n'étaient pas forcément tatoués. Et en général, c'était quand même assez moche. Et puis, ça va suivre exactement la même évolution que la démocratisation du tatouage dans la société française, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quasiment un incontournable. On n'est pas dans la scène Oi sans s'être fait un petit tatouage, voire plein, et en général, stylisé et artistique. Alors, il y a des informations très éparses parce qu'il n'y a pas Internet, parce que les fanzines britanniques, on les trouve pas ou très peu en France. Donc, il y a beaucoup de déperditions d'informations. Il y a aussi une compréhension extrêmement aléatoire de la langue anglaise en France. Et du coup, ça donne des versions totalement appauvries de la Oi britannique en France, mais parfois avec des spécificités françaises qui n'existent pas en Grande-Bretagne. C'est un genre décrié à cause de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, la violence, la récupération de l'extrême droite, voire totalement ostracisé, c'est-à-dire qu'en France, les punks, assez rapidement, se sont méfiés de tout groupe qui était étiqueté Oi. Et puis voilà. Alors, j'ai un grand B, une éthique forgée dans les valeurs traditionnelles. Donc, par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des classes populaires, il y a l'amitié virile. Là aussi, on est dans la continuation de, par exemple, des ouvriers qui prendraient la gamelle tous ensemble, un milieu mâle, masculin. C'était quand même pas mal la même chose dans le mouvement Oi français. La revendication d'appartenance à la classe ouvrière, qui est quasiment un mensonge, en fait, parce que c'est des gamins, donc ils travaillent pas. Ils sont soit chez leurs parents, soit en rupture de banc familial et vivant dans les squats. Mais en tout cas, il y en a très peu finalement qui travaillaient. Et ce qui est assez intéressant, c'est que plus les années vont passer, plus cette revendication de la classe ouvrière, elle va être présente, alors que la mouvance Oi, elle va devenir comme le punk au départ, beaucoup plus brassée socialement. Donc finalement, moins il y a d'enfants d'ouvriers, plus on revendique cette appartenance à la working class. Le vêtement passe-partout est uniformisé. Par rapport au punk, où il pouvait y avoir de l'individualisation, de la couleur, de l'outrance, on est beaucoup plus dans un look quand même qui est un peu le même pour tout le monde. Le patriotisme. Alors en Grande-Bretagne, il s'explique assez facilement. C'est une île comme le Japon, c'est des pays en général où le patriotisme est assez fort. Il n'y a pas ou très peu d'influence de, par exemple, politique comme un communisme internationaliste. Donc la classe ouvrière, traditionnellement en Grande-Bretagne, elle était de toute façon plutôt patriote. Ça ne veut pas dire d'extrême droite, hein, ça veut juste dire patriote. Et en France, on va avoir une traduction assez agressive dès le départ, plutôt ultranationaliste, pas forcément pour tous les groupes, mais quand même assez rapidement. Ensuite, mon grand C, de la bande multiculturelle de Colombes au trublion fasciste et la réhabilitation actuelle. Alors, ça sera difficile de définir qui est véritablement, qui sont les premiers skins en France, mais il semble que le premier, sinon un des premiers skinheads français s'appelle Farid, qu'on voit ici sur la photo. Il vient de Colombes, il est devenu skin fin 78, il était punk avant, et il a entraîné toute sa bande de punk de Colombes dans son sillon, ils sont tous devenus skins, et en s'agrégeant avec des skins de Paris et d'autres banlieues, ils ont formé la bande des Halles, les skins des Halles, comme on disait. Il y a un groupe à Caen qui s'appelait Brainwash, donc ils ont la proximité de l'Angleterre et des informations qui arrivent vite. Ils étaient punk au départ et ils sont tous devenus skins ensemble, a priori légèrement après la bande de Colombes. Au départ, il y a une maîtrise aléatoire des codes musicaux et des codes vestimentaires. On n'a pas vraiment les bonnes bretelles, on n'a pas le bon polo. Et puis, ça va s'affiner à partir de 81-82. Meilleure maîtrise. Et je citerai des groupes en particulier, Tolbiac Toads pour Paris, L'Infanterie Sauvage pour la banlieue sud, RAS pour la banlieue nord, Comintern Sect pour Orléans, Caméra Silence au moins dans sa première vie au départ pour Bordeaux. Et puisqu'il est dans la salle, je dirais quand même que à Rennes, les Trotskys ont eu un look très oi. Je parlais du mimétisme par rapport à accéléré par rapport à l'évolution britannique. La primauté de l'agressivité, on reçoit les informations de manière éparse et on retient des photos de skins anglais extrêmement agressifs. On a aussi affaire à beaucoup de jeunes skins qui se reconnaissent dans la oi, qui sont souvent en rupture de banc familiale, sociale, qui se retrouvent très vite dans la rue et qui du coup ont une espèce de rage à revendre. Il y a beaucoup de familles monoparentales aussi. Et puis il y a ce fameux glissement progressif vers l'extrême droite de plus en plus radical. Au départ on est dans une posture de provocation et puis on se dit nationaliste. Il y a sans doute à mon avis la déception de la gauche avec le tournant de la rigueur à partir de 1983, donc des enfants d'ouvriers qui voient que la gauche ne change rien à leurs conditions. Ça peut expliquer aussi une précipitation. Et je citerai des groupes, alors dans l'ultranationalisme Tolbiac Toads, Snix, Brutal Combat, et alors carrément dans le néo-nazisme, même si souvent la culture politique était extrêmement faible et qu'ils ont souvent plus joué aux nazis qu'ils l'étaient réellement, mais quand même, Evolskin, Totenkopf, Bunker 84 et bien d'autres. Au départ, c'est des prémices politiques, c'est Tolbiac Toads sans doute avec son premier 45 tours et un morceau qui s'appelle Il n'y a plus de français qui a posé un peu les bases d'une certaine xénophobie. Et à partir de 84-85, il y a une césure manifeste, c'est-à-dire qu'il y a une hégémonie. 95% de la scène oi française vire totalement à l'extrême droite. Par contre, peu de militantisme. Les rares qui se sont inscrits dans des groupuscules, en général, ont été virés aussi sec parce qu'ils n'étaient pas assez sérieux, qui passaient plus de temps à boire de la bière qu'à réellement être des militants. Le développement du hooliganisme, j'en ai parlé. Donc à partir de 82, cette présence massive au COP de Boulogne qui va être de plus en plus affichée et de plus en plus violente. Il y a ce que j'appelle le drame des jeunesses perdues. Donc c'est beaucoup de gamins qui vont vers l'extrême et qui s'y perdent, soit de jeunes qui aujourd'hui sont sortis de tout nazisme, de toute extrême droite, mais qui ne se remettent absolument pas socialement de ce qu'ils ont pu être lorsqu'ils étaient jeunes et de la violence qu'ils ont pu déployer. Et puis il y a l'exemple quasi mythique de Geno, le chanteur de l'Infanterie Sauvage, qui dérive peu à peu au néo-nazisme, le groupe s'arrête à cause de ça, et qui meurt noyé à l'âge de 22 ans. Il faudra attendre les années 90 pour qu'il y ait vraiment l'émergence d'autres tendances, une tendance antiraciste qu'on appelle Sharp, donc les skinheads antiracistes, et Red, rouge, bon, c'est finalement plus un communisme libertaire ou des références anarchisantes que vraiment communiste orthodoxe, mais en tout cas, il faudra attendre ces années 90 pour qu'il y ait d'autres voies, et non pas une troisième voie. La scène oi actuelle, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle est moins violente, c'est une évidence. Elle est beaucoup plus mixte, beaucoup plus de femmes et très active, souvent. Elle est, je dirais, quand même quasi débarrassée de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens extrêmement réac, voire extrême droite dans la scène, mais c'est ce que j'appelle les fachos à la retraite, c'est-à-dire qu'ils font plus de prosélytisme, ils ne se battent plus, ils viennent juste au concert. Et puis ils sont allés souvent dans d'autres scènes musicales que la oi. Et puis il y a beaucoup plus de recul, c'est-à-dire que je dirais que les jeunes skins d'aujourd'hui, ils connaissent toute l'histoire de la oi française, donc ils connaissent aussi les dérives et les choses qui ont été extrêmement violentes et extrêmement dommageables, donc ils vont reprendre les codes, mais ils savent parfaitement où s'arrêter, ils savent parfaitement jusqu'à où aller pour pas que ça devienne le grand n'importe quoi. Voilà, j'en ai fini pour la oi, et maintenant une seconde partie, le hardcore, la radicalité musicale. Alors mon grand A, c'est un milieu hétérogène et une certaine intellectualisation. Ça ne veut pas dire que tout le monde a été des grands intellos dans le hardcore, loin de là. Mais en tout cas, par rapport à la oi, c'est quand même manifeste. Là, on a plus affaire à un mélange de classe moyenne et classe moyenne supérieure, je dirais quand même, dans son ensemble. Du coup, les fondements culturels et les éthiques sont différentes. La musique, c'est des morceaux extrêmement courts, avec un tempo beaucoup plus rapide que dans le punk, quelque chose de vraiment extrême. Il y a l'abandon du look, pas tout à fait, mais quand même, ou la création d'un nouveau look moins offensif. Donc, par exemple, là, à gauche, on a un groupe, on peut dire qu'ils n'ont pas vraiment un look. C'est un groupe qui s'appelait Krul. À droite, c'est moi, à 21 ans. Donc, c'est tout pour être différent des punks. Et finalement, si vous êtes habillé en noir, si vous êtes clouté, si vous avez une crête, nous, on va faire les touristes en goguette. Par pure provocation, pour comme d'habitude, pour tuer le père ou le grand frère. Il y a le skateboard qui a été très important aux États-Unis. Bon, c'était plus une posture en France quand même. Mais je me rappelle qu'à une époque, on s'est tous acheté notre skateboard et qu'on en faisait, en tout cas, tout le week-end. Alors, il y a ce fameux esprit positif, c'est être absolument acteur. Ça existe dans le punk, hein, d'être acteur, de ne pas être simple consommateur. Mais là, c'est vraiment un leitmotiv qui revient et c'est une nécessité aussi parce qu'il n'y a pas eu de groupe hardcore français qui a signé sur des gros labels. Il y a le végétarisme, c'est minoritaire, mais c'est hérité de l'anarcho-punk britannique qui lui-même a influencé le hardcore américain et hop, qui a influencé un peu le hardcore français. Et il y a ce que j'appellerais l'impossible adaptation du Straight Edge. Donc c'est Minor Threat, un groupe de Washington, qui parlait de ne pas être sous l'obsession de l'alcool, des drogues et du sexe. Et disons que c'était une vision, les punks c'est bien gentil, mais si vous buvez toute la journée, vous êtes finalement assez inactifs. Et en plus, vous cassez vos bières à la sortie du concert, donc le club est interdit ou est fermé quelques temps après, donc ce n'est pas positif. En France, il y a eu quelques straight edge, mais c'est quand même assez rare. Et pourtant, le punk n'est pas un adepte de la culture du vin, donc c'est pas ça qui peut l'expliquer. Alors, un genre décrié aussi, parce que moi, je me souviens très bien, les punks détestaient le hardcore au début, quand il y a eu une émergence en France à partir de 83. Pour eux, c'était du bruit, et je trouve ça un comble qu'un punk dise « ça, c'est du bruit, c'est pas de la musique ». Comme quoi, on peut vite devenir le con d'un autre. Et puis, c'est largement ignoré, c'est-à-dire que dans la grande presse, il n'y a jamais eu rien sur le hardcore français. Ou alors, il y a eu des articles, mais longtemps après, dans le début des années 90, et c'était plus vraiment musicalement du hardcore. Il y a aussi l'introduction du slam comme danse en France. Donc qui consiste à monter sur scène et à plonger dans le public. Alors ça, je peux en témoigner. On a commencé à un petit groupe de gens à le faire vers 84-85. Les punks nous tapaient dessus parce que c'était trop violent pour eux. Et oui. Et puis j'ai mis deux pochettes de disques d'un groupe, le premier groupe de hardcore français, I'm Atlos. Et quand je parlais d'une certaine intellectualisation quand même, on voit que là, les pochettes, elles sont extrêmement pensées. Certes, celle de droite, premier 45 tours, celle de gauche, pardon, elle est minimale, mais elle frappe. Il y a vraiment le souci de frapper très fort d'un seul coup d'œil. Et ça, c'est le dernier 45 tours à droite. Et bon, vous ne voyez pas, mais c'est quatre moutons. Et puis une mise en page quand même pensée, élaborée, beaucoup plus que dans beaucoup de groupes punk français. Alors ensuite, mon grand B, la recherche farouche de l'indépendance, une espèce de punk plus, c'est-à-dire les fondements du punk sur l'indépendance et l'authenticité dont on parlait, mais qui veulent être absolument à tout prix 24 heures sur 24. L'importance du do-it-yourself qu'on retrouvait dans le punk, créer un label indépendant, créer un groupe, être organisateur de concerts, fanzines, émissions de radio, mais il y a une véritable nécessité parce que de toute façon, la scène hardcore émergente, elle est tellement petite qu'en fait, personne va le faire. Je m'arrête.
Non, tu t'arrêtes pas, si tu peux conclure.
Ah putain.
Désolé.
Ouais.
Je t'ai coupé là, je sens que j'ai coupé quelque chose.
C'est-à-dire que j'y arriverai jamais jusqu'au bout.
Je suis désolé.
Et comme c'est intéressant, on prend 5 minutes.
Je prends 5 minutes ? Bon, j'essaye de faire vite. Une scène basée sur l'entraide, donc beaucoup de correspondances entre les gens dans toutes les villes, même dans tous les pays, une inscription dans une mouvance, un réseau international. Alors que le punk français avant était quand même très franco-français, la pratique des prix bas, faire des disques pas chers, et puis abattre les barrières. Ça a été plus vrai aux États-Unis qu'en France, mais souvent, les premiers groupes de hardcore, ils jouaient au même niveau que le public, c'est-à-dire encore plus, moins de barrières que dans le punk, c'est-à-dire il n'y a même pas de scène. Du coup, on voit pas forcément le groupe, mais on danse avec lui, on slame, on pogote avec lui, c'est une fusion. Et mon grand C, un milieu hétérogène, mais la permanence de certaines spécificités. Il y a un accès très difficile au départ aux disques américains qui sont mal distribués et qui sont trop chers en France. Il y a, je l'ai dit, en 1983, I Might Lose, qui est le premier groupe de hardcore et qui en plus qui est assez original finalement. C'est vraiment pas un copycat. À partir de 85, il y a beaucoup plus de groupes. Il y a l'émergence de beaucoup plus de groupes. Je citerai Chromosome 4, Final Blast, Rapt, Les Vandals, Scraps, Fleetox, MST et des groupes punk qui ont été influencés par le hardcore. Je fais un peu de lèche, les Trotskys et Sherwood aussi, qui était un groupe punk et dont l'album est très connoté hardcore américain sur certains morceaux. Il y a une première génération du hardcore français qui vient du punk, manifestement, et une deuxième génération, beaucoup plus génération spontanée, qui n'a jamais écouté de punk avant et qui s'en fout complètement. Et puis, il y a le mimétisme politique brouillon à l'américaine et des thèmes de morceaux plus existentialistes, parfois intellectualisés, et je dirais très introspectifs, comme dans la scène de Washington, par exemple. Influence métal à partir de 87, influence mélodique, influence post-hardcore, mais on garde le vocable hardcore pour toutes ces musiques qui n'en sont pas. Et je dirais que à partir des années 90, le hardcore devient plus une éthique qu'un genre musical en France. Et je finirai en disant, aujourd'hui, c'est toujours une scène minoritaire et extrêmement minuscule, mais qui a toujours gardé les mêmes fondamentaux depuis le départ. Et j'ai mis deux pochettes pour l'opposition, caractériser le côté hétérogène. Les Scraps avec une pochette plus punk, noir et blanc, ça pourrait être un groupe sorti sur Crass Records en Angleterre. Et Condense, par exemple, qui a une musique plus post-punk, mais qui était représentative de la scène post-hardcore, mais qui est représentative de la scène hardcore des années 90, et où il y a quasiment une esthétique de peinture. Donc des choses avec plus de recul, avec plus de réflexion esthétique et graphique. Et enfin, je tiens à remercier Solveig et Luc pour leur confiance, parce que j'ai arrêté au Master 2, donc je n'ai jamais fait ma thèse. Hyacinthe pour son efficacité, et Geno malgré tout, malgré sa dérive, ça a été mon ami, et je le salue.
Ah, merci à toi pour cette première. Il y en aura d'autres, hein. Non, surtout, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, membres de l'équipe là, serrée, c'est quand même hyper précieux. Enfin, on s'est pas trop posé la question du hardcore pour l'instant. Enfin, et moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, faudra vraiment que tu reviennes, peut-être sur un format plus long, pour nous éclairer de toutes ces richesses insoupçonnées en France. C'est vraiment très très intéressant.
Avec plaisir.
Ouais.
Ben, merci Philippe, et puis excuse-moi de t'avoir coupé brutalement.
T'as eu raison.
Il y avait juste une chose. Puisque tu parlais de la gauche britannique, il y avait un vrai paradoxe, je pense, dans cette gauche britannique, c'est que Karl Marx était persuadé que s'il devait y avoir une révolution communiste, entre guillemets, ce serait une révolution anglaise, parce que, tout simplement, ils avaient une culture philosophique, à partir de Thomas More, en caricaturant, et ils pensaient que c'était absolument pas possible en Russie, parce qu'ils n'avaient pas cette culture philosophique.
C'est pas qu'une question de culture, c'est, c'est le fait aussi qu'il y a un vrai prolétariat en Grande-Bretagne, ou en Allemagne, par exemple, alors qu'en Russie, il y a surtout des paysans, quoi. Mais moi, je parlais pas de la gauche, en fait. Je parlais de la classe ouvrière.
D'accord.
Ce qui n'est pas forcément toujours collé, hein, mais...
Ouais, tu disais, ou alors j'ai pas bien écouté, que le terme hardcore venait des États-Unis.
Non, ce que j'ai dit, oui, de toute façon, la première...
Il y a des punks, certains groupes punk anglais, que je pense à Discharge ou GBH ou Broken Bones, ou, qui ont été catalogués punk hardcore déjà à leur tout début, quoi. Musicalement, c'était plus dur que...
Pour moi, les groupes anglais qui ont été appelés hardcore, comme effectivement Discharge ou GBH, d'abord, c'est a posteriori, c'est pas dès qu'ils se sont formés, c'est un peu a posteriori. Et quand même, je veux dire, les Bad Brains, ils commencent à 79, et je pense que c'est fondateur de ces rythmes ultra rapides. Les Anglais, ils n'ont pas été forcément influencés par les Américains, mais je pense qu'eux-mêmes se considéraient juste comme des groupes punk. Voilà.
Non, c'était le terme hardcore.
Mais il vient du porno, comme tu le sais au départ.
Merci Ron Jeremy.
Ouais, merci d'abord pour ta communication et la richesse de ton propos. Alors, je voulais revenir sur ce que tu as dit, mais j'ai peut-être pas bien compris. Tu parles de la posture du hardcore américain avec un rapport brouillon au côté politique. J'ai un souvenir qui date de 81-82, quand on avait reçu les disques des Dead Kennedys, tu vois, et je trouvais, au contraire, moi j'avais 20 ans à cette époque-là, que tout d'un coup, il y avait un positionnement assez clair politique qu'il y avait moins avant, avec des sujets sur la religion, l'usine pollueur, etc. Et je trouvais ça, au contraire, c'était presque un programme politique. Et on sait quand même que Djello Biafra, il a été engagé, il s'est présenté à la mairie de San Francisco. Donc je voulais avoir ton avis sur cette position qui, pour moi, est au contraire extrêmement claire et qui créait une rupture par rapport à avant, un espèce de flou... Si tu veux, quand on parle des positions politiques du punk avant,
oui, c'est quand même le quotidien, c'est pas la politique.
Anarchy in the UK, mais
c'est une posture.
Que là, tout d'un coup, avec Djello, enfin, il me semblait, avec Djello Biafra, c'est le sentiment que j'avais du haut de mes 20 ans. Il y avait tout d'un coup un programme qui s'organisait et envoyait. Puis alors, comme tu l'as dit, là, par contre, ça a été une claque au niveau du rythme de la musique. C'est au point d'ailleurs, je vais vous faire rire, que j'ai cru que le disque était, je le faisais pas passer à la bonne vitesse.
Oui, le fameux Maxi In God With Us, où on savait pas trop à quelle vitesse il fallait le mettre.
C'est dire quand même la claque qu'on a.
Alors, je vais répondre, en fait. Dead Kennedys est le contre-exemple. C'est-à-dire que c'est des gens plus âgés. Djello Biafra avait été hippie avant, pour le côté politique de la chose, et il adorait des groupes comme Jefferson Airplane. Donc il est assez éduqué. Il est plus âgé que la mouvance hardcore qui va arriver à partir de 80. Et effectivement, beaucoup d'ironie, beaucoup de références, beaucoup de culture et des textes extrêmement fins et extrêmement politiques. Mais c'est le contre-exemple, c'est-à-dire que tous les groupes hardcore qui sont arrivés à partir de 80, alors je pense à Minor Threat ou SSD Control ou j'en sais rien, même MDC qui est plus politique, mais ça reste quand même assez brouillon. C'est Black Flag peut-être, mais Black Flag c'est pas très politique quand même. C'est plus introspectif sur existentialisme même. Et je dirais que la plupart des groupes hardcore... Bon, d'abord, c'est Reagan qui arrive au pouvoir, donc c'est anti-Reagan totalement. Mais si tu lis les textes, c'est quand même niveau 5MB. Enfin, j'ai adoré ça, mais il n'y a pas une élaboration très très forte. Et Dead Kennedys, d'abord, le premier album, il est étiqueté punk. Et c'est un groupe punk. C'est à partir du second, ils sentent qu'il y a une nouvelle génération et qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce fameux mini-album In God We Trust avec le crucifix sur le dollar, où là, ils disent, tiens, on va s'essayer au hardcore, et c'est effectivement que des morceaux hardcore musicalement, mais avec l'intellectualisme et le véritable talent d'écriture de Djello Biafra en plus. Ah non, mais tous les textes de Dead Kennedy sont juste incroyables, quoi. Mais je veux dire que c'est vraiment... C'est un groupe qui était là avant le hardcore. C'est pas qu'ils prennent le train en marche, c'est qu'ils sentent qu'il est en train de se passer. Ils ont envie de s'essayer à ce genre avec un deuxième disque. Mais il y a une intelligence et un recul que n'ont pas des gamins de 16, 17 ans qui font leur groupe juste en même temps. Voilà.
Moi, j'avais une petite question. Je me demandais, avec Luc, on se dit souvent que le hardcore, c'est en fait... pas tant une deuxième génération qu'un moyen de remettre le punk qui est devenu complètement mainstream, de le remettre underground. Donc on réaccélère la musique, on en fait quelque chose de beaucoup plus fort en fait que le punk n'était quand il a commencé à devenir un ersatz de punk. Ça paraît sensé comme lecture ou pas ?
Je pense que les deux lectures sont vraies. C'est-à-dire qu'à la fois chez les jeunes qui commencent à faire du hardcore à partir des années 80, ces gens, ils voient arriver... eux, ils étaient fans de Germs, de Fear, les premiers groupes punk américains un peu rentrent dedans, moins Television ou des groupes comme ça qui étaient déjà sentis comme plus intellectuels. Et ils voient que souvent, le deuxième ou le troisième album de ces groupes punk va être plus fin, avec des morceaux plus élaborés. Et eux, le truc qui les a pris au trip, c'est le début. Donc ils vont à la fois faire une prolongation plus radicale, plus extrême. Pour eux, c'est à la fois un hommage, et il y a toujours le truc de tuer le grand frère. Je dis pas père, parce qu'ils ont tellement peu, ils ont 3 ans de différence, en règle générale. Donc je pense que les deux sont vrais. C'est s'inscrire en opposition et le renouveler en même temps.
Et le hardcore devient très vite mainstream, de la même manière, de toute façon.
Alors très vite, je suis pas trop d'accord.
Non, mais très vite, devient rapidement aussi mainstream.
C'est-à-dire, en fait, si vraiment on est puriste, le hardcore, c'est 80-83. Après, c'est fini, beaucoup plus hybride, avec les influences extérieures que j'ai pu nommer. Ce qui devient vraiment le hardcore mainstream, c'est à partir de l'explosion de tous ces gros groupes qui ont signé sur des majors, et c'est quand même plus le milieu des années 90. Enfin, Green Day, par exemple, qui est d'ailleurs plus punk rock que hardcore. Mais je veux dire, on est longtemps après quand même le début du hardcore. Non, je pense quand même que le hardcore américain, toute première génération 80-83, il y a quasiment aucun groupe sur des majors, quoi. C'est que des autoproductions et il n'y a pas Le seul groupe qui a émergé et qui a signé sur le major, à ma connaissance, ça doit être Suicidal Tendencies, mais encore avec des influences métal, avec quelque chose qui ramène... Le premier est hardcore.
Et après, quoi, ça devient le fusion metal. Ouais. Trois questions, mais vite, hein. Courtes. Est-ce que le titre du dernier 45 tours de Imatlos, Negative Mental Obsession, ce serait une référence indirecte au PMA, Positive Mental Attitude?
Attends, je préfère question pas, parce qu'après j'oublie. Okay.
Ouais, d'accord.
Alors je peux en parler facilement parce que j'ai coécrit ce texte. donc il y avait, comme j'avais expliqué, le Straight Edge qui disait, ouais, quand les punks boivent trop et prennent que des drogues, en fait ils sont inactifs et ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, et ils ne sont plus réellement le cœur de ce qu'ils devraient être. Donc le Straight Edge américain, c'était un peu dépasser ça et être finalement plus disponible pour entreprendre des choses. Sauf qu'on a vu apparaître des groupes copie une seconde génération avec, par exemple, Youth of Today ou Uniform Choice, qui sont des groupes qui ont pris le truc hyper littéralement. Je pense aussi à Judge, le groupe new-yorkais, où c'est carrément, si tu bois de l'alcool, je te défonce la gueule, quoi. Ce qui était vraiment pas le truc d'origine. Et du coup, on avait écrit ce texte, qui a pas une portée forte en France, puisque y avait trois stratèges qui se battaient en duel. Donc ils savaient pas une, mais c'était de dire, ouais, mais, si ça devient un truc dogmatique, c'est pas intéressant non plus. Donc c'était un texte pour dire que si le straight edge devenait un truc dogmatique, ça devenait totalement inintéressant. Et effectivement, on s'est dit, tiens, quel titre on pourrait trouver pour le morceau. Positive Mental Attitude, ça a été un morceau de Bad Brains, qui était pas straight edge puisqu'il fumait de l'herbe toute la journée. Et on a fait Negative Mental Obsession, qu'on trouvait assez réussi comme titre. Et frappant, enfin, pouvant parler à des gens qui avaient les références hardcore, en tout cas, quoi.
D'accord. Ensuite, plutôt des questions sur les tatouages. T'as mis pas mal de photos, donc de la nouvelle génération, tout ce qui est Wati, Leon Slow, Marabout et tous ces autres groupes, parce qu'il en a plein, ouais. Pas forcément Punk Oi. Et par rapport à la question des tatouages, une question sur, moi je me souviens plus du nom du livre, mais d'un bouquin avec des photos de tatouages avec un gars qui disait, mais avant les gens qui avaient des toiles d'araignée au niveau du coude, c'était des légendes, parce que ça voulait dire que c'était extrêmement connoté. Moi j'ai entendu l'histoire comme quoi les gens qui se mettent des toiles d'araignée au coude, c'est parce que c'était des piliers de bar. Et qui prenait le
non. Donc... J'en sais rien. Non, c'est pas que je dis non, c'est que je n'en sais rien. C'est comme toutes ces histoires de lacets qui me dépassent totalement. J'avoue que j'en sais strictement rien. Quoi.
Alors et donc plutôt une autre question sur toujours par rapport à eux. Donc moi je me souviens de les avoir vus en 2010 et après je les ai vus s'épaissir avec le temps. Donc je me doute bien que c'est peut-être dû aussi à leur consommation de bière. Mais quelle est la place? Tu parlais d'uniforme. Quelle est la place aussi de la musculation? De la nécessité de faire de la musculature pour avoir pour s'épaissir et être plus
j'en sais rien. Plus non, je sais pas, Wati, je pense qu'il s'épaissit en bide plus qu'en muscle. Non, Louis, effectivement, il est super carré, mais moi, j'en sais rien s'il fait de la musculation.
Ça rentre pas dans leur dogme. Faire de la gonflette pour.
J'en sais rien. Honnêtement, là, tu me bluffes. J'en sais strictement rien. Mais on peut leur téléphoner. Non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Bon, enfin, dans la Oi, il y a plus de bites de bière que de vraiment super musclé. Enfin, un peu des deux. Ou le super musclé qui devient bite de bière au fil des années, quoi.
Et encore merci, Philippe. Merci. On peut l'applaudir. Merci.